Cours de philosophie première par le Père Marie-Dominique Philippe, le 31 janvier, l'an 2001, à Saint-Jodard.
Je vous lis d'abord ces deux questions. Quelle est la différence entre être et essence ? C'est une très bonne question, parce que c'est une question qui est à la rencontre d'Avicenne et d'Aristote. Avicenne, on le connaît très mal, hein, nous, parce qu'on connaît un peu l'Avicenne latin. On ne connaît pas l'Avicenne arabe. Je vais à Fribourg, j'ai eu la chance à Fribourg d'avoir un étudiant syrien qui lui connaissait parfaitement l'arabe. Je lui disais sa thèse sur l'Avicenne arabe et l'Avicenne latin. Alors, Saint Thomas, c'était l'Avicenne latin. Et c'est qu'une partie de l'Avicenne. Surtout maintenant où on voit toutes ces questions-là, on voit que c'est beaucoup plus complexe. Alors, Avicenne, c'était l'essence dans un sens massif. Saint Thomas emploie beaucoup essence, c'est Avicenne. Dans Aristote, qu'est-ce que c'est que l'essence ? Est-ce que c'est le TSI ? Qu'est-ce que c'est que la chose ? Vous voyez, si j'essaie de comprendre l'essence. Alors, je crois, parce que saint Thomas en parle dans le DNT Essentia, il s'en dit le DNT Essentia, qu'on voit le conflit, on peut dire, le conflit entre Avicenne et saint Thomas. C'est pour ça que DNT Essentia est très intéressant. C'est saint Thomas, à 24 ans, je crois, qui a écrit DNT Essentia. C'est, quand on lit DNT Essentia, on a l'impression qu'il y a beaucoup de distinctions qui ne sont pas faites. Et c'est intéressant parce que ça montre que saint Thomas était dans ce climat-là, quand il était étudiant avec Albert le Grand. Il sentait bien qu'il y avait quelque chose d'autre. Alors, le mot essence, selon le DNT Essentia, essence, c'est la nature, c'est l'acuité, c'est l'intelligibilité de la chose. Donc, acuité. D'autre part, on dit que l'essence, c'est ce qui est capable d'exister. Alors, quand vous dites l'essence, ce qui est capable d'exister, vous regardez l'essence comme en puissance à l'existence. Ce qui est capable d'exister et ce qui existe. L'essence de l'homme, c'est la nature de l'homme. Oui. C'est sa crudité, ce qu'il est, son intelligibilité. Et puis, il y a cet homme qui existe. L'essence n'existe pas. Elle est pensée. Elle existe dans ma pensée. Elle a un mode, donc, d'existence intentionnelle. Et puis, c'est tout. Et l'essence est donc un être en puissance relativement à l'existence. Et c'est pour ça que dans la scolastique, quand on donne la pensée de saint Thomas en 24 thèses, les fameuses thèses thomistes, il faudra que vous les regardiez, les 24 thèses thomistes. On ne les voit pas beaucoup, nous, ensemble, mais il y en a qui ont voulu résumer toute la pensée d'Aristote en thèse. Ça ne se résume pas une pensée philosophique, hein. en thèse. Ce n'est pas des thèses, le philosophe, il recherche la vérité. Alors, on a fait les 24 thèses thomistes. Et la première, c'est en tout être créé, il y a une distinction réelle entre essence et existence. Entre essence et existence. Donc, essence est pris la potentialité de l'être à l'égard de l'être en acte. L'être en acte, c'est l'exister. Et l'être en puissance, immédiate à exister, c'est l'essence. Donc, essence exprime tout simplement l'être en puissance à exister, ce qui est capable d'exister. Et au fond, c'est comme ça que je crois qu'on doit regarder le point de vue de l'essence. C'est pour ça qu'on a la distinction réelle entre essence et existence. La distinction réelle entre mon existence et ma nature. La nature d'homme est la même que la vôtre. Mon existence n'est pas la vôtre, n'est pas votre existence. Tout simplement, on la remarque par l'âge. J'ai une supériorité sur vous, c'est que je suis plus ancien. C'est une supériorité et c'est une infériorité. Vous avez, vous, tout l'avenir pour vous. Et ça, est-ce que c'est du côté de l'essence? Non, nous avons la même essence. C'est pour ça qu'on peut se parler. On a la même essence. Mais au point de vue existence, nous sommes distincts. Votre existence n'est pas la mienne. Et en tant qu'exister, vous êtes distinct de moi. Par l'essence, vous êtes avec moi. Nous avons la même essence, je crois. Animal raisonnable. Oui. Alors l'animal, on est tout à fait d'accord, on est tout à fait génériquement ensemble. On a tout à fait les mêmes. L'animal qui est en vous, l'animal qui est en moi, mais il se regarde et il dit oui. Et la différence spécifique, c'est la raison, l'esprit. L'esprit est le même en vous et en moi. Oui, selon son essence. Vous avez la même intelligence, selon son essence. C'est pour ça qu'on peut se parler. Mais normalement, j'espère que, étant donné que je suis plus âgé que vous, j'exerce mon intelligence depuis plus longtemps que vous. Donc, normalement, mon intelligence doit être plus développé par l'exercice. Et ça se fait très vite, ça. Comprenez, l'éducation première différencie tout de suite l'intelligence. Elle est individuée par le corps. Et ça me rappelle que l'intelligence implique carnes mollas, c'est-à-dire une sensibilité particulière. La diversité de nos intelligences se fait par la sensibilité dans l'ordre de l'exercice. Oui, la David joue beaucoup. Ben, c'est sûr qu'il y a un certain atavisme d'éducation raffiné. Ça permet à l'intelligence de se développer mieux. Quand vous êtes né dans un milieu artiste, ou dans un milieu scientifique, ou dans un milieu de gens sains, sainteté, mais ça fait des différences très grandes d'intelligence. Nos intelligences se différencient très vite. Alors vous voyez, l'essence de l'intelligence, la ratio, l'intelligibilité, ce qu'elle est. Au fond, c'est le tiesti d'Aristote. Qu'est-ce que c'est la chose? Tiesti. Selon la cause formelle. Et puis, l'acte. Vous voyez? Alors, l'essence normalement, on n'en a pas parlé beaucoup de l'essence. Hein. On en parlera beaucoup dans un regard de sagesse, en voyant la nature humaine et son existence. L'essence et l'existence. Le jugement d'hier dans toute créature, dans toute homme, dans toute créature, il y a une différence entre essence et existence. C'est un jugement de sagesse, puisque vous dites en toute créature. La créature, vous la connaissez en fonction du créateur. Vous ne savez pas ce que c'est que la créature, c'est vous ignorez le créateur. La créature, c'est celui qui dépend du créateur. Donc c'est un jugement de sagesse. Et le premier jugement de sagesse, c'est la distinction réelle entre essence et existence. C'est appliquer la distinction de acte et puissance à l'homme, à la créature, à tout ce qui est créé. Dans tout ce qui est créé, il y a une différence réelle entre son acte et sa puissance. Et l'essence, c'est la puissance dans ce qu'elle a d'ultime, toute prête à être actuée. Je comprends que c'est la réalité existante qui détermine et mesure ma connaissance d'elle. La réalité qui détermine et mesure ma connaissance. Oui. Et elle me permet d'avoir une connaissance vraie. Mais je ne comprends pas comment l'être comme tel est vrai. Ma pensée est vraie dans la mesure où elle est conforme à la réalité existante. Très juste. Mais il me semble que la réalité en elle-même n'est pas vraie ni fausse. Et le mot vrai est analogique. Et là, vous le prenez univoquement. Le mot vrai est analogique comme l'être est analogique. Je ne comprends pas que l'être, c'est la substance et c'est la relation. Ah oui. L'être est la substance et est la relation. La relation existe. La substance existe, c'est de l'être. Il y a une grande différence entre les deux. Ah, alors, voyez, vous avez le vrai qui est une relation et le vrai qui est une substance. Elle est tout simplement, elle est la réalité, elle est tout simplement. Non, elle est, oui, mais elle est capable d'être connue. La réalité est capable d'être connue. En tant qu'elle est capable d'être connue, elle est vraie. Pour cela, je ne vois pas ce qu'est la vérité au-delà d'une concordance. Donc d'une relation, d'une concordance de ma pensée à ce qui est. Oui. La vérité formelle, c'est bien ça. C'est la conformité, l'adéquation de mon intelligence, de ma pensée, avec la réalité. C'est ça. Mais pour que la réalité puisse être mesure de ma connaissance, il faut que la réalité soit dans l'ordre de la vérité fondamentale. Autrement, elle ne pourrait pas être mesure, là, déjà. Pouvez-vous développer comment l'être est vrai? Qu'est-ce que c'est que la vérité, la notion de vérité au niveau transcendantal? question de veritate, question première, article premier. J'ai dit, il faut tout ce que vous ayez lu cette question. Vous la comprendrez mal, hein. Vous aurez de la peine à la comprendre, mais c'est très important. On commençait la scolastique, la philosophie scolastique, par les transcendentaux. Alors, faites mémoire de ça. Il faut faire mémoire de ça. La scolastique existait, et les thomistes d'un certain âge, aujourd'hui encore à l'angélique, ils sont dans la scolastique. Et beaucoup. Il ne faut pas toucher la scolastique. La scolastique, ils ont commencé la scolastique par les transcendentaux. Alors les transcendentaux, alors, moi, je me souviens très bien la question que je posais comme jeune étudiant, les transcendentaux, très bien, mais c'est saint Thomas qui l'a dit. Mais une référence à Thomas d'Aquin, c'est très bien, mais c'est pas la philosophie, ça, c'est l'histoire. Je dois comprendre pourquoi les transcendentaux sont donnés en premier lieu. D'où ça vient, les transcendentaux? L'être, tout se ramène à l'être. Alors, les transcendentaux, c'est res, unum, verum, bonum, aliquid. Les transcendentaux, ils dépassent tout. Ils sont transcendants. Ils dépassent l'attribution univoque. L'homme est un animal raisonnable. Ça, c'est univoque. On dit Pierre est un animal raisonnable. Jacques est un animal raisonnable. Ils ont tous la même essence. Donc, on attribue animal raisonnable d'une façon univoque. Tandis que quand je dis Pierre est, d'une façon singulière, il est comme Pierre. Jacques est, il est d'une autre manière. Son individuation est autre. Son existence est autre. L'existence de votre voisin n'est pas votre existence. Elle est différente. Elle s'est développée autrement. Et pourtant, c'est juste de dire que vous existez et c'est juste de dire que votre voisin existe. Alors, pourquoi? C'est parce que l'être se dit de multiples manières. Et quand on dit ça, on veut montrer que l'être est analogique. Il y a bien quelque chose de commun dans votre être et le mien, il y a quelque chose de commun, c'est qu'il est. Et il y a quelque chose de différent, c'est que c'est votre être et que c'est mon être. Alors vous voyez, l'analogie, quelque chose de commun dans la diversité. Dans la diversité, quelque chose de commun. Et j'essaie de saisir ce quelque chose de commun dans cette diversité. Et je trouve cela à l'égard de l'être, à l'égard du vrai, à l'égard du bien. La bonté du cheval n'est pas la bonté de Dieu. La bonté de l'éléphant n'est pas celle du cheval. Et la bonté de l'homme n'est pas celle du cheval. Et pourtant, on dit, ce cheval est bon. Un pur sang, il est bon. Cet éléphant est bon. Et quand on l'attaque, il se défend. Cet homme est bon. Ce chien est bon. C'est tout à fait différent. Et Dieu est bon. Oui, analogique. L'attribution analogique. en impliquant une diversité et quelque chose de commun. Et c'est ce quelque chose de commun qu'on essaie de saisir en parlant, en disant « ratio entis »,« ratio boni », »,« ratio veri ». La raison de vrai, la raison de bien, la raison d'être. Oui, on prend le terme « ratio ». Ratio, de cette manière-là, traduit le « logos » grec. « Logos ». Le « logos » grec, c'est ce quelque chose de commun dans toute cette diversité. Je vous ne dis pas l'essence, parce que essence, c'est trop univoque. Alors vous dites ratio. C'est comme ça que vous voyez bien qu'il y a deux régimes de connaissance. Le régime naturel, code naturel à nous, qui est par genre et différents spécifiques. Nous connaissons l'essence, la quidité des choses. Et nous connaissons leurs différences. Et puis, il y a un type de connaissance particulier qui est analogique. Vous saisissez la ratio et les modes. C'est très important, ça, de saisir ça. Je vous l'ai déjà dit, je sais bien, mais il faut revenir tout le temps, jusqu'au jour où on arrive vraiment à saisir ça. Vous avez deux manières de différencier. Du reste, vous voyez bien, quand vous dites que Dieu est bon, quand vous dites que le cheval est bon, que ce chien est bon, vous employez « bon » dans des sens totalement différents. Tandis que quand vous dites « animal », cette vipère est un animal, cette vache est un animal. « Animal » signifie toujours la même chose. Vous ne pouvez pas dire « Dieu est un animal ». Pourquoi ? Alors que vous pouvez dire « d'une certaine manière », « d'une certaine manière ». Vous voyez, « Dieu est bon ». Votre intelligence a deux registres, univoque et analogique. Alors, pour revenir à la question, vrai est une notion analogique. Mon intelligence est vraie. Mon intelligence est vraie. Ça veut dire que mon intelligence est conforme à la réalité. Ce que je dis peut être vérifié par la réalité. Ce que je dis. Donc mon intelligence est vraie quand elle est conforme à la réalité. Mais vrai peut regarder l'être et non plus l'esprit. Je vous ai dit qu'on regardait la distinction être en acte, l'être en puissance, au niveau de l'être. Être en acte, être en puissance. Je regarde maintenant la distinction être en acte et en puissance au niveau de l'esprit. Je suis conscient. Le niveau de l'être et le niveau de l'esprit n'est pas le même. L'esprit est une certaine manière d'être. C'est une certaine manière d'être. C'est d'être dans l'intelligence, c'est d'être dans la volonté. Que devient la distinction être en acte et être en puissance dans l'esprit. Quand mon esprit est-il en acte ? Vous pouvez tous faire cette expérience-là. Quand mon esprit est en acte, mon esprit est en acte quand elle connaît l'acte de connaissance. Mais l'acte de connaissance est vrai ou faux ? Quand il est vrai, il est plus parfait que quand il est faux. Ce qui est faux est en puissance à être vrai. Tandis que vous ne dites pas que ce qui est vrai est en puissance à être faux. Non. Ce qui est vrai est vrai. Bon. Mon intelligence est vraie quand elle est conforme à la réalité. Donc, l'acte d'intelligence, c'est le vrai formel. Vous avez toujours vu ça. Ce vrai formel, est-ce qu'il est entelekeia ou est-ce qu'il est energeia? Et je vous ai dit, c'est capital de bien distinguer les deux. Le vrai dans mon intelligence, quand je pense, ce que je vous dis maintenant est vrai, conforme à la réalité. Et je peux vous dire, au point de vue philosophique, à chaque instant, ce que je vous dis est vrai, conforme à la réalité. Dans le cours que je vous donne, j'essaie d'être toujours vrai. Et si j'hésite, je vous dis, je crois que c'est vrai. Mais quand je relis les cours que je donnais, quand j'étais plus jeune, au début, je m'aperçois qu'il y avait des choses qui n'étaient pas totalement vraies. On les précise. À ce moment-là, j'étais sincère en les disant, autrement je n'aurais pas donné, mais ce n'était pas entièrement vrai. Je sais que je creuse de plus en plus dans la vérité. Et je suis de plus en plus adéquat à la réalité. Donc, mon intelligence est vraie quand elle pense, quand ma pensée est conforme à la réalité. La réalité est mesure de ma connaissance. Si la réalité est mesure de ma connaissance vraie, elle est donc source de ma vérité. Et c'est dans ce sens-là que je dis l'être est vrai. Et il est capable d'engendrer en moi la vérité. Si la réalité était fausse, si la réalité n'était ni vraie ni vraie, alors la vérité, ce serait moi la mesure. Je serais le premier. Tandis que ma vérité, dans ma parole, c'est entelekeia. C'est moi pensant d'une façon juste, adéquate à la réalité. Je suis donc dépendant de la réalité dans ma vérité. Et c'est vrai, je suis dépendant de la réalité quand je dis vrai. Et donc, ma pensée est acte, entelekeia, mais dépendance du vrai fondamental, ontologique, du vrai dans la réalité. Si la vérité formelle est adéquation de ma pensée à la réalité, ça prouve, c'est une relation. Une relation, il y a toujours deux termes. Et l'un dépend de l'autre. Et si l'un est vrai, l'autre est mesure de cette vérité. en tant que mesure de cette vérité, il est vrai fondamentalement. Et la vérité formelle, et on dit vérité formelle pour montrer que c'est dans la pensée que cet acte de la vérité s'exprime le mieux. Et c'est vrai, pour moi, le vrai formel est toujours premier. Il est en moi, il est dans ma pensée. Tandis que le vrai fondamental est toujours quelque chose qui, pour moi, est atteint par le vrai formel. Alors voyez cette chose très curieuse. Ce vrai fondamental est atteint par la vérité formelle que je possède en moi. Et je reconnais en même temps que ce vrai formel, que ce vrai fondamental est source de la détermination de ma vérité. Je suis vrai quand j'atteins la réalité. Et que j'atteins la réalité comme source de ma pensée, comme mesure de ma pensée. Et donc, d'une certaine manière, ma pensée me donne le vrai formel, c'est-à-dire le vrai dans tout son épanouissement, dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté. Mais ce vrai de ma pensée est second. Comme vrai, il est relatif à la réalité. Et la réalité est vraie fondamentalement, en premier lieu, parce qu'être, l'être est vrai, l'être est intelligible par lui-même et il est fondement de toutes mes vérités formelles. Je suis bien, c'est assez complexe, hein, c'est pas commode. Mais c'est très bien justement de poser la question pour qu'on voit bien que vérité, le vrai, est analogique. Il y a le vrai de l'intelligence, il y a le vrai de la réalité. Parce que mon intelligence est toujours dépendante de la réalité. De la réalité dans ce qu'elle a de plus fondamental, c'est-à-dire dans son être. Dans son être, mon intelligence est dépendante de la réalité. Et elle n'est vraie que quand on revient à cette vérité tout le temps. Le savant le sait très bien, ça. Il découvre quelque chose, il veut savoir si c'est vrai, ça, si c'est pas son imagination. Voir la différence entre le grossissement que donne l'instrument. L'instrument ne donne pas la réalité telle qu'elle est. Quand vous regardez avec un microscope, ne donne pas la réalité. Il y a une différence entre la réalité et puis ce que vous voyez. La différence entre la photo et la réalité, quand même. Si vous dites la photo, c'est la réalité. La photo est plus vraie que la réalité. Attention, attention. Est-ce que la réalité est plus vraie que la photo? Ah. Ou est-ce que la photo est toute relative à la réalité? La photo, elle a l'avantage de projeter visiblement ce que je pense. Oh, je dis, oh, ce paysage est magnifique. Vite, prenons la photo. Et pourquoi vous en prenez la photo? Pour garder votre image. Pas pour garder la réalité. Pour garder votre image. C'est intentionnel. Et c'est relatif à la réalité. Et c'est pas la réalité. Le jour où vous confondez l'intentionnel et la réalité, vous confondez la vérité et la sincérité. la confusion de la vérité et de la sincérité, c'est considérer que ce que je connais comme la réalité. Or, ce que je connais est une partie de la réalité. C'est pas toute la réalité, parce que je connais la réalité sous un aspect particulier. Quand vous regardez un chef-d'œuvre, quand vous regardez une œuvre architecturale, vous avez une première vision, une seconde vision, une troisième vision. Vous avez 6 photos de la même réalité. Et toutes ces photos expriment la réalité. Chacune selon un point de vue. Quand vous regardez la réalité, vous avez un point de vue et vous essayez d'atteindre cette réalité dans ce cas-là de plus profond. Mais vous savez que c'est un point de vue. Vous êtes relatif à la réalité. Donc, la réalité, au point de vue vérité, est source de toutes ces vérités. Ces 6 photos qui donnent chacun un point de vue. Et la réalité donne tout. Voyez, l'analyse se fait à partir de ces points de vue différents. Et la réalité, elle, est une en elle-même et a en soi, elle est source de ces différents points de vue. Et c'est pour ça que c'est tellement important de bien distinguer le vrai formel de l'intelligence dans la pensée, dans la parole. La vérité est dans la parole quand elle est conforme à mon intelligence. L'intelligence est vraie quand elle est conforme à la réalité. La parole n'est pas vraie directement par rapport à la réalité, mais par rapport à ma pensée. Je dis vrai, je dis ce que je pense, exactement. Et ce que je pense est vrai, conforme à la réalité. Et vous avez la vérité au niveau parole, la vérité au niveau pensée, la vérité au niveau réalité. Et l'herméneutique consiste à regarder la différence qu'il y a entre la pensée, la parole et la réalité. Chaque fois vous interprétez la réalité. Pourquoi vous l'interprétez ? Parce que ce n'est pas un décalque complet de la réalité. C'est un point de vue de la réalité. Et c'est très important, ça, de bien comprendre que dès que je pense, j'interprète. Je ne saisis pas toute la réalité. Je saisis un point de vue de la réalité. Alors, quand on est très, très habile, la différence du savant et du non-savant, la différence du maître et de l'étudiant qui cherche, c'est que il a de la peine à faire qu'il prend le point de vue qui touche tout de suite la réalité dans ce qu'elle a de plus elle-même. On s'arrête très souvent aux choses secondaires. Et on prend une chose secondaire pour expliquer le tout. Et on n'explique rien. Ce qui se manifeste à moi d'une façon très visible, première, je la prends comme étant vraiment ce qui exprime la réalité dans ce cas-là le plus profond. Oui. Je confonds la manifestation de la chose et la réalité. Vous voyez, c'est très important de bien comprendre le hiatus qu'il y a entre la pensée vraie et la réalité vraie. Bien distinguer le vrai formel de ma pensée et le vrai de la réalité. La réalité, je parle d'une réalité créée, la réalité que je vois, que j'expérimente, que le savant expérimente, est toujours complexe. Puisqu'elle est complexe, je peux prendre un détail pour ce qu'il y a d'essentiel. Arrive. Et c'est celui qui, justement, n'a pas suffisamment d'habitude, suffisamment de critique, qui prend le secondaire pour l'essentiel. Celui qui a un habitus, qui connaît bien, saura tout de suite distinguer l'essentiel du secondaire. Mais la réalité implique implique l'essentiel et le secondaire. Elle est complexe. Toute réalité existante est complexe. Et donc, elle peut toujours être source pour moi d'erreurs. De prendre le secondaire pour l'essentiel.